Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Listening to CKUT 90.3 FM.
Bonjour à tous, bienvenue au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Nous sommes lundi matin, ça va bien, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été prématurément. Marc-André, comment vas-tu?
Je vais très bien, toi Nelson?
Je vais très bien, merci. Ça s'entend?
Ça s'entend, ben ouais, tu pètes le feu.
Merci.
Je te demanderai pas ce que ça fait hier, mais on va avoir la chance d'en reparler.
Ben pourquoi pas. Ah ouais, on vient d'écouter une belle chanson instrumentale.
Exact. D'un groupe qui s'appelle Small World Project. Et l'album s'appelle Small is Beautiful. Et c'était le gazon bleu. Le mien est vert, mais leur est bleu.
Intéressant comme choix de titre, le gazon bleu. Alors, je vois aucunement le lien avec ce qu'on vient d'écouter, mais bon.
Non. Ben, il y avait un petit côté bluegrass, rigodon.
Bluegrass, voilà le lien. Ah, gazon okay. bleu.
Je viens de le dire moi-même.
Bravo.
Bravo, un morceau de gazon. De la tourbe pour moi ce matin.
Oui, exactement, de la tourbe.
Ouais, ben c'est ça. C'est un groupe super intéressant que j'avais eu la chance de voir en spectacle. Je voudrais pas dire que c'est le side project, mais c'est presque ça. C'est, on a déjà fait jouer dans les premières émissions au début, si vous nous suivez depuis le début, d'un groupe qui s'appelle MG3, le Montreal.
Mon Dieu,
Guitar Seigneur. Trio.
OK, merci.
Ouais. T'es pas réveillé.
Vraiment, non, mais là, je suis MG, je n'ai pas...
MG3, c'est trois guitaristes. Là, c'est un groupe, premièrement, montréalais, québécois, tout ça. Et là, t'as Sébastien Dufour. Le concept du groupe, là, c'est tous des petits instruments. Là, Small is Beautiful, vous allez comprendre. Sébastien Dufour, il va jouer tous les petits genres de guitares, ukulélé, charango, strumstick, gazou, voix vocale. T'as Patrick Graham qui est au cajon, tous les côtés percussion, cajon, cajonito, carrira, demande-moi pas c'est quoi, tambourin, wooden bongos, mini, whatever, un you do drum. Fait que tout ce qui est la percussion est par Patrick Graham et Frédéric Sanson, basse acoustique et contrebasse, double basse, ukulélé, gazou et vocal.
Du gazou?
Du gazou.
C'est un must.
C'est un moss.
Dans un groupe de gazon bleu.
Gazon bleu. Birugueno était fort avec le gazou.
C'est vrai?
Oui. Ah ouais? Ouais, il faisait des petites
mélodies. C'est du gazou ça. Électrique.
Exactement.
Avec un amplificateur bien branché. C'est le petit bout du gazou.
Avec la boîte à rythme et la guitare de François et Laurent au vocal. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est Small World Project. L'album, c'est Small is Beautiful. Fait que pour moi, c'est comme... c'est super cool. Ça s'écoute super bien. C'est instrumental. Il y a même, je pense, une reprise de Tous les matins du monde. C'est ça, Tous les matins du monde. Mais comme ce matin. Là, un matin comme ce matin. Tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement. Bon. Ça fait aucun sens, mais c'est pas grave. Hey, cette semaine, on a une belle émission. Je vous parle d'un film documentaire, de deux, une bande dessinée ou deux, si on a le temps, un livre, une monographie qui est presque une biographie. Et quoi d'autre? La bonne musique de chez nous et d'ailleurs.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
On est de même.
Ouais.
On aime la musique d'ailleurs, mais on aime aussi la musique d'ici. C'est important d'encourager la scène locale.
Yes, support your scene, en anglais en plus.
C'est ça, exactement.
Ouais.
On commence avec quoi, Marc-André?
OK, tu mets de la pression, on va y aller tout de suite en cinéma. Je pensais que tu avais une petite anecdote
croustillante. Ah oui, c'est ça, c'est oui. Ben, ouais, une anecdote de lendemain de veille,
c'est-tu? Ouais, c'est ça.
Pourquoi pas? Okay. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Je peux te raconter ma soirée avec ma copine?
Oui.
Ben OK, ben si tu veux. J'ai-tu le temps?
C'est sûr que t'as le temps. C'est toi qui as le chrono, top chrono.
Ben c'est rien d'extraordinaire. C'est vraiment juste que moi, personnellement, j'ai fait une belle découverte d'un bar vraiment intéressant dans Pointe-Saint-Charles, donc qui est le bâtiment 7. En fait, le bar s'appelle le Sans Taverne, S-A-N-S Taverne. C'est une microbrasserie dans Pointe-Saint-Charles, mais qui est un projet particulier puisque c'est une coopérative. Et dans un bâtiment qui est lui-même un bâtiment géré de façon solidaire. Là. C'est une grosse coopérative, en fait. Là. Puis dans ce bâtiment-là, ben, tu as qui s'appelle le bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, qui est sur la rue, je crois, Lebert. C'est vraiment dans le fond de Pointe-Saint-Charles, vers le chemin de fer, vers le fleuve. Là. C'est vraiment l'extrême sud de Pointe-Saint-Charles. Donc c'est vraiment un secteur qui est un peu enclavé là, par la rue Wellington puis le chemin de fer. Puis ce bâtiment-là, ben, l'histoire, la petite histoire, c'est que c'est un bâtiment qui est à l'abandon pendant longtemps, à côté des anciens ateliers du CN, parce qu'il y a une grosse cour de triage juste à côté. Puis ce bâtiment-là, ben, c'est ça, les citoyens le réclamaient parce qu'ils voulaient faire des activités, un lieu communautaire. Puis finalement, à force de faire de pression, ben, la ville a embarqué et le propriétaire, qui est un propriétaire privé, là, un groupe immobilier, qui a fini par... Pardon?
A cédé finalement.
Oui, exactement, okay. avec la collaboration de la ville, là, ils ont embarqué dans le projet citoyen. Ce qui fait que le bâtiment appartient vraiment aux citoyens Et il y a vraiment, c'est multidisciplinaire. Donc, tu as la taverne qui est vraiment sympathique, le microbrasserie sans taverne. Tu as une épicerie solidaire qui s'appelle le Détour, si je ne me trompe pas. Et à l'étage en haut, ben, tu as des ateliers artistiques. Tu as des ateliers de sérigraphie, tu as un atelier de céramique. Tu as des gens aussi qui font des... Ils ont fabriqué comme une arcade avec des morceaux de bois et des vieilles consoles. Fait que là, les jeunes peuvent aller là. Tu peux aller prendre une bière en bas puis envoyer tes jeunes jouer aux jeux vidéo en haut. Bref, c'est vraiment super. Puis ils ont aussi même à l'extérieur des serres. Ils font pousser. Il y a un petit jardin avec des poules et des lapins. Donc, moi, après, on a fermé le bar.
Oh!
Ils nous ont vendu des canettes pour continuer à boire dehors. Parce que c'est une microbrasserie, donc ils vendent leurs propres canettes. C'est des très bonnes bières, le Sans Taverne. Et après ça, on continue à se promener à 11h le soir avec le grand vent frais. Puis on est allé voir les beaux gros lapins puis les poules qui étaient dans le poulailler.
Fait que vous déambuliez en zigzagant.
Exactement, exactement, comme des lapins.
Oh! Hey, il est trop de bonheur! Mon petit lapin.
Il est trop de bonheur. Ça, c'était un show de radio à FU, jadis naguère. Mais bref, c'est ça. Fait que ceux qui le connaissent déjà, ben, tant mieux. C'est vraiment un super endroit. Mais sinon, si vous ne connaissez pas, dans le sud-ouest de Montréal, dans Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment un super endroit. Puis c'est super communautaire. Vraiment, là, c'est très DIY, c'est très, tu sais, on fait tout nous-mêmes, puis on s'organise. Ils ont même, je ne suis pas supposé le dire, mais ils ont même à l'occasion des shows de musique.
Oh là là, ça c'est
intéressant. Parce qu'ils ont une partie du gros bâtiment qui n'est pas encore exploité. Eux, pour l'instant, c'est quand même gros, là, mais ils exploitent seulement une partie de tout le gros bâtiment. Puis à l'arrière, c'est comme d'entreposage, mais à l'occasion, ils sont capables aussi d'organiser des petits concerts.
Oh, ça, c'est intéressant.
Donc, je pense pas qu'on peut trouver la programmation sur Facebook ou quoi que ce soit, mais si on se pointe sur place, ça va être affiché, ça, c'est certain. Puis vraiment, c'est très, très, très sympathique comme endroit.
Bien, belle invitation, merci. Tu vas m'inviter, là, si tu me donnes l'eau à la bouche.
Oui, une bonne bière de microbrasserie un lundi matin à 8h.
Oui, c'est un pain liquide, ça va c'est consistant. C'est pour se mettre sur le piton. En parlant de se mettre sur le piton, Summer of Soul, l'été de la soul. Parce que là, on s'en va dans l'été.
Oui, on est pas mal. Officiellement, on n'est pas dedans, mais c'est comme si.
Oui, c'est printemps-été.
Les terrasses sont ouvertes. Le monde se baigne dans le fleuve. C'est comme. On est presque dedans. Là.
Quand ils se font pas repêcher, mais ça, c'est un peu plus triste. écoute bien ça. Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised. Mm-hmm. C'est un documentaire fait par nul autre que, si je te dis, The Roots,
oui,
qui vont venir cet été.
Oui.
Il y a un certain batteur-drummer qui s'appelle Quest.
Mm-hmm.
Et c'est ce même drummer-musicien-là qui est un gros tripeur de collectionneur de vinyle. Et il est aussi révolutionnaire et réalisateur dans ses temps libres. Et il a fait... Il a fait un documentaire à partir d'archives d'un festival de 1969 qui a eu lieu à Harlem, à New York, dans le coin de New York, aux États-Unis, tout ça. Et c'est un festival, là, ça dit soul, mais c'est comme le festival de jazz, ça englobe beaucoup d'autres musiques, d'autres styles ou sous-groupes, dont le soul, le blues, le jazz, le gospel, name it. Même un peu la musique un peu plus, religieuse, même le Latin music, tout est là. C'est vraiment un beau documentaire. Ça t'est resté dans les archives pendant super longtemps. Et il y a comme eu une espèce de, on pourrait dire une légende urbaine, mais qu'il y avait eu un festival qui était le Woodstock, le Black Woodstock.
Ah, OK.
C'est comme l'étiquette des fois qu'on donne à ce festival-là. Et ça avait été sur les tablettes, ces archives-là, parce que c'était pas... c'est qualité broadcast, mais ça, il ne voyait pas comme l'intérêt de le diffuser à la télé ou il n'y avait pas autant de chaînes spécialisées à ce moment-là.
Mm-hmm.
Fait que là, lui, il en a entendu parler. Il est allé chercher ces archives-là pour montrer que la communauté afro-américaine black et la brown community, il appelle ça la brown community, c'est les latinos, les hispaniques, sont capables de faire des festivals, des choses bien organisées et intéressantes. Et là, tu vas me dire, combien, si je te dis ça là de même, là, c'est pas une question piège, hein, mais combien tu penses qu'il y a eu d'assistance? Bon, on va pas essayer de comparer avec Woodstock. Là. Woodstock, c'était ouais. un phénomène, ça a débordé. Les organisateurs pensaient peut-être avoir 20, 30 000, puis il y en a eu quoi, 100 000 et plus. Là.
Ouais.
Mais si je te dis ce festival-là,
Le festival ouais. de...
D'Harlem, on va dire.
Ben, je ne sais pas moi, on va dire 30 000 personnes.
Ben, t'es bon. Rajoute-en à 10. Fait que c'est environ une assistance de 40 000 personnes.
Quand même.
Oui, c'est quand même...
Ça a eu lieu une fois?
Ça a eu lieu une fois.
Dans les années...
69, la même année que, la même année que Woodstock. Mais Woodstock a fait, je pense, de l'ombre à ce festival-là.
Ah ouais. Puis comment il s'appelle, le festival?
Ben, le festival, il l'appelle The Harlem... Attends, là, tu me poses une bonne question. Harlem Cultural Festival.
Puis c'était comme à New York?
À New York, à Harlem, oui. Exactement. Ah ouais, exactement, okay. Ouais. Comme les Harlem Globetrotters.
OK.
Oui, oui. Fait que... Puis là, eux, leur but, là, c'est vraiment de... Ça permettait de se réunir pour chanter et danser. Puis il y avait un petit côté, comme je dis, la culture... religieuse un peu. Il y avait presque du gospel, presque du...
Ouais.
Comme dans les églises, le dimanche matin à Harlem, il y avait ce petit côté-là. Dans le documentaire, on voit des interventions du révérend Jesse Jackson qui a lutté pour le droit des Noirs aux États-Unis. Tu as un jeune Stevie Wonder.
Okay.
C'est vraiment intéressant qui commence, mais qui est déjà Stevie Wonder. Là,
okay.
C'est embryonnaire, mais tout est là. Tu as B.B. King, bluesman. T'as Sly and the Family Stone qui ont déjà beaucoup de succès, mais en allant là, ça donne encore plus de crédibilité au festival. T'as Max Roach, tu sais, des jazzmen. T'as Nina Simone. Moi, Nina Simone, j'ai souvent entendu de la musique, mais je me suis jamais arrêté, disons, pour regarder sur YouTube ou sur une chaîne spéciale, voir Nina Simone en prestation. Et là, elle est là. Et elle est tellement charismatique, sa présence, qu'est-ce qu'elle dégage, est vraiment grounded. Puis c'est tout des extraits, c'est des pièces généralement complètes, mais des fois, il fait une petite insertion, un petit, des images de d'autres choses ou d'une petite interview de 10-15 secondes, puis elle retourne à la prestation quand elle chante pas. Fait que le montage est assez aérien, il est assez... c'est pas du vidéoclip, là, c'est vraiment plus documentaire traditionnel, tout ça, là, pas 10 000 plans de caméra, puis tout ça. Faut s'en remettre dans l'époque aussi, là, il y a pas... il n'y avait pas des
grues et des drones.
Tout ça, là, c'était plus simple, mais c'est aussi
c'était efficace. Un festival extérieur comme Woodstock aussi. Là,
exactement.
C'était-tu comme dans un...
C'est comme dans un grand parc. J'ai pas su, c'était, je ne sais pas exactement comment que le parc s'appelait.
OK. Mais
c'est dans Harlem. Là. C'est un parc très connu, là, je veux dire, pour dans la communauté. Il y a des gens, justement, qui... Qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que il interviewe des gens qui dit, bon, à ce moment-là, vous aviez quel âge et c'est quoi votre expérience par rapport à ce festival-là? Fait que là, les gens, ils ont 50, 60, 70 ans. Fait que là, moi, j'avais 15 ans à l'époque. Je suis parti de... J'habitais dans le fin fond d'Harlem. J'ai descendu, mettons, 5 rues ou 5 blocs de rues. Et je suis arrivé là. Et là, j'ai vu qu'il y avait tellement de monde et qu'il y avait un festival. C'était comme un happening. Il y a du monde qui ont foxé, pas l'école, mais le travail, où il y avait d'autres engagements. Puis où ils ne voulaient pas le dire à leurs parents puis pour dire qu'ils s'en allaient là. Là. C'était un peu jeune aussi, quand même. Là.
Ouais.
Puis, Harlem, à ce moment-là, il y avait beaucoup de problèmes de pauvreté, de chômage. Il y avait eu les émeutes, il y avait des tensions raciales. Le fléau de l'héroïne était déjà très grave à ce moment-là. Et il y avait aussi 21 membres des Black Panthers qui avaient été emprisonnés. Fait que, tu sais, il y avait toute une espèce de symbolique, tension. Tu sais, c'est comme le point culminant d'une été. Ça brassait culturellement et politiquement et socialement aux États-Unis. Fait que ce document-là, juste pour, pas juste la musique, mais pour ce que ça représente.
Le
contexte social. Puis c'est ça qui est bon de Questlove dans dans ce documentaire-là, c'est ça qu'il fait. Là. Il nous met ça. Puis là, tu as des entrevues, puis tu as des extraits de qu'est-ce qui se passe à la télévision, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1969? Tu sais, le 11 septembre, on sait qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, c'est un landmark. Là.
Ouais.
C'est une pierre angulaire tranchante de l'histoire. En 69, à part Woodstock, une affaire là, qui est allée...
Ben oui.
C'est où
dans l'espace.
Exactement. Le premier homme est...
Neil Armstrong qui a marché sur la Lune.
Exactement.
En 69.
Et là, ça a coûté une beurrée.
Ouais.
Et là, tu as des gens d'Harlem qui disent, ben pourquoi envoyer des gens sur la Lune quand qu'avec cet argent-là, on pourrait régler le problème de chômage, c'est de sûr. Pauvreté dans notre pays.
Puis il y avait la guerre au Vietnam aussi.
Exactement.
Puis il y avait c'était aussi la guerre froide, en fait. Là. C'est
ouais.
la course aux armements avec la Russie.
Ouais.
L'ex-URSS, plutôt.
Oui.
Puis, ben ouais, c'est un contexte super intéressant. C'est un contexte qui a vraiment aussi inspiré beaucoup d'ouvrages, beaucoup de films, beaucoup de chansons. Donc, je veux dire que culturellement, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé dans ces années-là aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi. Là.
Ouais.
Mais donc, c'est le documentaire Summer of Soul, est-ce que tu dirais que c'est plus un documentaire qui est plus la majorité porte sur le spectacle, le festival de Harlem? Ou...
Oui, mais c'est un prétexte, moi, je pense. On montre le spectacle, mais c'est un prétexte pour montrer qu'est-ce qui se passe aux États-Unis.
Okay.
Comment que le mouvement culturel est en train de... Il y a de quoi qui se brasse. Tu sais, l'illusion du peace and love, il est à son apogée, là, mais même à ça, on voit que ça tourne pas rond, puis c'est pas tout peace and love. Puis la guerre du Vietnam, c'est qui allait? C'était des Afro-Américains, des Latinos. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai été vraiment surpris du... c'est ça, l'espèce de shout-out au Black and Brown community, parce que t'as des gens comme Tito Puentes, t'as un autre groupe que je connais pas, un conjuntos. C'est pas Carlos Santana, mais il y a Santana dans... Je pense que c'est... Je vais le retrouver, mais c'est ça, c'est vraiment... je le vois-tu? Hey, c'est écrit petit, mon ami? Non. Il y a The Fifth Dimension aussi. Fait que ça, il y a des groupes qu'on a moins entendus, mais qu'on les voit aussi à notre époque, ceux qui sont encore vivants, les membres, puis qui expliquent comment que c'était grand, puis eux, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on en parle, ben là, on en parle aujourd'hui parce que c'est sorti des boulamites, là, mais je veux dire, ça a eu une répercussion sur leur carrière.
Après le festival.
Exactement.
Okay.
De bouche à oreille, là, ça s'est propagé. Fait que très bon documentaire, Summer of Soul, l'été de la soul.
Réalisé par nul autre que...
Mr. Roots himself. C'est...
Son nom d'artiste, c'est un... Quest? Non.
Questlove.
Amir Thompson. Questlove.
Merci.
C'est écrit petit sur la pochette du DVD.
Je pense que tu as des lunettes.
Hey, Pelaye. Ouais. J'ai dit, hein? Ouais. Ben, effectivement, juste. Ben, j'ai pas vu le film, mais juste avoir les images de la pochette, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air super intéressant. Déjà que les documentaires musicaux, c'est toujours intéressant.
Exact.
Mais là, c'est vraiment particulier, puis c'est un contexte très.
Et c'est fait par un musicien pour les musiciens. C'est
important.
Fait que c'est encore mieux. Et là, il y a un présentateur, j'ai oublié son nom, ça fait quand même peut-être une semaine et demie que je l'ai vu. Il y a un présentateur qui était à la radio, c'est un Afro-Américain très connu dans sa communauté, très apprécié, qui est avec les Kennedy, qui est avec le maire de New York, tu sais, qui serre des mains, là. C'est comme... C'est comme Mr. Connection. Peut-être toi, tu vas le voir. Je ne sais pas s'il en parle brièvement. C'est l'organisateur de ce festival-là qu'il faut mentionner. Si vous voyez le documentaire, vous allez savoir de qui il en est. Mais c'était vraiment quelqu'un d'impliqué pour sa communauté. Et on voit que c'est un homme passionné. Puis c'est lui qui a eu la brillante idée de dire « Ça, là, ça va nous coûter plus d'argent ». Peut-être qu'on n'en fera pas, parce que c'était gratuit, là. Tu rentrais, il n'y avait pas...
Wow.
Moi, j'ai pas... Il n'y a jamais été mention d'argent là, dans le, le documentaire, là, c'était pas un festival payant. Mais lui, il a eu la brillante idée, le flair, même si là, ça vient de sortir, ces images-là, de dire, « Hey, j'ai des connexions, je fais de la radio, je vais me trouver des connexions à la télévision, on va le filmer, on va l'enregistrer, le son, tout ça. » Ça me surprend même qu'il n'y a pas une bande sonore ou originale de ça. Parce que, je veux dire, tu as une chanson, une de B.B. King, une de Sly and the Family Stone, une de Nina Simone ou deux. Mais imagine, ils n'ont sûrement pas juste fait une ou deux chansons. Ils ont fait plusieurs.
Ils ont sûrement fait une heure de show, une demi-heure.
Fait que ça vaudrait la peine de peut-être là, d'avoir les archives au complet. Mais c'est une très belle porte d'entrée à ce festival-là qui s'est passé à Harlem, New York City, en 1969.
C'était officiellement le nom, là, c'était le Harlem Cultural Festival qui a eu lieu au Mount Morris Park, est devenu depuis le parc Marcus Garvey.
Ah, excellent.
Qui existe encore aujourd'hui.
Une chance, t'es là, Nelson. T'es tout le temps là pour m'appuyer quand j'ai des pertes de mémoire. T'as une bonne vue.
T'es capable d'aller.
Faudrait que je mette mes lunettes ou je sorte ma loupe.
Exactement. Hey boy. Merci beaucoup, Marc-André. Summer of Soul, ça a l'air vraiment bon. C'est clair que je vais écouter ça.
Hey, on va y aller en musique. Vous allez voir, c'est pas de la soul. Ça l'écorche. Je vous donne un indice. Ils sont écorchés.
Merci, les écorchés, la vie nous écœure aussi par moments, mais pas toujours, heureusement. En ce lundi matin, la vie nous écœure pas.
Pas du tout.
Mais des fois, ça fait du bien de se défouler puis de dire qu'est-ce qu'on pense. Parce que quand ça va pas bien, mais faut en parler.
Oui, il faut l'extérioriser.
Il faut l'extérioriser de façon artistique.
Oui.
Quand on peut. Oui. Puis ça nous donne une belle chanson qu'on vient d'entendre du groupe Les Écorchés.
Oui, que tu m'as donné. C'est leur premier album, fait que c'est l'album éponyme. Sorti sur Indica. Qui sont les écorchés? Ça pourrait être nous, mais ce n'est pas nous, parce qu'on n'est pas si écorchés que ça, on n'est pas si... Non, moi, j'ai des petits gars tranquilles.
J'ai pas de cicatrices non plus. Non. J'ai pas beaucoup de vécu. Là, non, une vie facile.
C'est de la peau de bébé que t'as encore. Ouais, t'as du petit poil de duvet sur le menton. T'as une petite moustache molle. Là. T'es encore pré-ado. Hey, mais eux autres, ils ont les cheveux longs puis en ont de la barbe. Fait que t'as Pat Gordon à la guitare. Là, on parle des écorchés. Pat Gordon à la guitare. C'est la guitare acoustique. T'as Marc Vaillancourt au vocal, t'as Michel Langevin à la batterie et t'as Philippe Mius d'Entremont à la contrebasse électrique. Non, c'est un violon, c'est un violoncelle électrique, je crois. Si ouais, je ne me trompe pas, il ne m'aimera pas, il ne sera pas content.
Contrebasse ou violoncelle et pas là. Ouais. Ben, c'est un instrument à cordes, ça c'est certain. Puis ça fait la baisse.
Violoncelle, c'est violoncelle.
OK. Ouais. Ça fait des notes basses dans ce groupe-là.
Puis des fois, il est plugué sur une pédale, fait qu'il y a un petit côté distorsionné. On pense que c'est la guitare électrique, mais non. C'est Philippe Mius d'Entremont au violoncelle que j'avais rencontré. Il y a aussi à l'accordéon Joe Evil, peut-être pas sur cette pièce-là, mais sur un autre pièce, Joe Evil des Grimmskunk. Que dire des écorchés? Ils ont 3 albums. Ils ont l'éponyme que vous venez d'entendre. Ils ont 4 démons et Frères de sang, dont la pochette a été faite par nul autre que Jean-Michel Cholette, maître du airbrush. Mais là, sur celle-là, c'est un peu, ça ressemble presque, sur le premier album, ça ressemble presque à l'album de Metallica, mais ils l'ont fait avant Metallica, fait que chapeau aux écorchés. Tu sais, l'album de Metallica, Hardwired to Self-Destruction, que les 4 visages des membres est comme engloutis un dans l'autre, ben eux, c'est comme un négatif, c'est les 4 visages des 4 membres qui est comme collé ensemble. Fait que t'as une partie droite d'un des membres, la partie gauche d'un autre, divisé en 4. Ouais. Merci. C'est dur à décrire ce matin. Et que dit, ben c'est ça, Pat Gordon qui joue dans Goulunatic, Marc Vaillancourt de Barf, Blasting All Rotten Fuckers, qui viennent de sortir un nouvel album.
Ah, wow!
Oui, et Michel Langevin de Voivode, qui ont sorti un nouvel album il n'y a pas si longtemps. Et Philippe Mius d'Entremont, j'ai eu la chance de le rencontrer dans ton hood à Verdun, lors d'un show de Barf, avant la pandémie. Et monsieur très sympathique, très grande connaissance musicale. J'ai eu la chance de lui parler. Et je sais qu'il joue de la musique classique des fois dans le métro.
OK.
Et il gagne beaucoup de sous en ouvrant son caisse de violoncelle.
C'est vrai.
Même à conseiller l'instrument. Et que c'est ça, c'est un musicien classique, mais qui trippe, qui a un look de rocker.
Ouais.
Ouais.
Métalleux.
Métalleux, on va appeler ça de même. Un poêle.
Exactement. Ouais. Donc, les écorchés, merci Marc-André, c'est déjà l'heure de la pause.
OK.
Avais-tu autre chose à dire avant qu'on...
Ben, c'était comme un expresso assez corsé, assez ouais. Destroy, mais on va revenir après la pause avec des bandes dessinées coquines.
Restez les nôtres au lendemain de la veille sur CKUT 90,3 FM. What's going on? This is Russ. I know I'm fine. Russ. But the money makes me handsome. The Journey is Everything Tour. I seduce you, babe. Saturday, May 28th, Place Bell. Got the best song. Yeah. Russ. Got me going psycho. With special guests, Boogies and Caitlin. Tickets on sale now at evenco.ca. Russ, The Journey is Everything Tour. And the fans are asking for it. They're loving it. What they want, what they want, what they want. 398-4616, get in the mix, stir the batter, constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Better the world, what a bad, bad, bad. Better the world, what a bad, bad, bad. Better the world, what a bad, bad, bad. What everybody knows.
Nous sommes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce des nul autre que Ramones.
Les Ramoneurs.
Les Ramoneurs qui nous ont ramené une pièce de...
Ben, c'est une cover, c'est Surfing Bird.
Exactement, merci de reconstituer la pièce qu'on vient d'écouter. C'est vraiment plaisant à nos oreilles.
Ah oui, c'est ma voix de ténor du matin. Bon matin tout le monde, restez à l'écoute de ce côté.
Je préfère la version des Ramones.
Oui, moi aussi. Mais l'original est super bonne,
oui.
Mais la cover est encore très cool. C'est l'album Rocket to Russia.
Est-ce que c'est le premier album des Ramones?
Non, c'est le 3e ou 4e. Là.
Ouais. OK.
Johnny Ramone, guitar. Joey Ramone, lead vocals. Dee Dee Ramone, bass. Tommy Ramone, drums.
On pourrait croire que c'est une fratrie, hein?
Oui. Mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des vrais noms.
Ils se détestaient comme des frères, par exemple.
C'est vrai, hein?
Oui, oui. Ça, on pourrait en parler. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Hey, sais-tu par qui c'est produit, cet album-là?
C'est produit par... Non, j'ai aucune idée. Non, j'allais déjà me connaître.
Je te dis un album, Glam, Slippery, When Wet. Je te dis You Made Love Like a Choo-Choo Train.
Boy.
Tony Bon Jovi.
Tony Bon Jovi?
Oui.
Ah ouais?
Oui.
Ah ouais?
Mais c'est pas le Bon Jovi. C'est pas le Bon Jovi qu'on connaît.
Ah, OK.
Mais c'était trop drôle. Faudrait que je le dise. Hey, je vais commenter la pochette. J'adore commenter la pochette. C'est un vinyle que vous avez entendu là. Et là, les Ramones étaient précurseurs. J'enlève mon petit post-it dessus. T'as Joey Johnny. Qu'est-ce que tu vois là? Il y a des.
C'est
les
quatre.
Les quatre, ouais.
Les quatre musiciens à côté sur un mur de briques, un vieux mur de briques sur un trottoir qui nous regarde avec les jeans troués, tous pareils, et les quatre côtes de cuir, les cheveux noirs d'en face, noir et blanc. C'est parfait.
Ramones écrit en rose le titre de l'album en rose aussi, Rocket to Russia. Il était précurseur, les jeans troués, il était déjà en mode, les gars, et le petit coat de jeans et le t-shirt, c'était des précurseurs de la mode. Ils ont été habillés comme ça pendant tout le long de leur carrière. Ils n'ont jamais changé de look.
Ouais.
Chapeau les boys. Non, les Ramones, quel groupe, je les adore. Très content sur mon bucket list. Il y a des gens qui les ont pas vus, je les ai vus.
C'est vrai?
Rialto, yes. Ouais. Represent. Ouais, c'est fucking...
Avec le chanteur original?
Ouais, le chanteur original. Le seul, Didi était pas, je pense que c'était C.G. Ramones, si je me trompe pas. Ça doit être dans le coin de la tournée de Brain Drain ou avant. C'est vers la fin pas mal de leur carrière.
OK.
Mais,
dans les années 90?
10 à peu près. Là. Mais okay. Leur carrière a été... Ouais, ils ont fait une couple d'albums après, là, Adios Amigos et compagnie. Mais c'était quand même dans la bonne époque. Et les Ramones, c'est l'attitude punk rock par excellence new-yorkaise.
Excellent, excellent. Toujours plaisant à entendre cette belle musique-là. C'est inspirant.
Mais là, c'est ça. Pour introduire notre livre, il fallait qu'il y ait une attitude un petit peu punk rock, un petit peu DIY, do it yourself. Attends pas après les autres, fais-le toi-même, hazlo tu mismo. Et là, j'ai un livre entre les mains. C'est une monographie, c'est presque une biographie de quelqu'un qui n'est pas décédé. Ça s'appelle « Sortir du cadre ». D'Alex Bastide, un entrepreneur québécois, un jeune entrepreneur québécois. C'est le parcours atypique d'un entrepreneur punk.
OK.
Si je te dis Unsick.
Unsick.
Ouais.
Comme le quartier à Montréal.
Exactement.
Antique quartier-ville.
Oui, monsieur.
OK.
Si je te dis métro Henri Bourassa.
Métro Henri Bourassa, STM, ligne orange.
Bravo.
Go.
Go. Embarque, prends ton transfert. Un transfert entre les dents. T'en rappelles-tu quand on prenait l'autobus? Hey. Un petit transfert en papier brun. Les jeunes ne savent pas de quoi qu'on parle.
Il est dans le métro. Quand tu sortais, tu avais un petit transfert. La petite machine, tu appuyais sur le bouton.
Oui, un papier.
Puis elle donnait un transfert de quand tu sortais du métro.
Oui, pour prendre l'autobus. Exactement. À Antique, j'habitais à Antique. Il y avait un endroit super cool qui s'appelait le Underworld.
Oh, palais.
Ça te dit-tu de quoi? Regarde, j'ai un sticker de ça.
J'ai peur.
Underworld, Montréal, Vancouver, represent. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Mes yeux sont trop petits. Underworldshop.com. Underworld, en gros, c'est quoi? C'est deux passions importantes pour les punk rock kids, les petits jeunes. C'est la culture du skateboard. Et la culture des 10 records.
Des 10 records.
Les 10 records, les vinyles,
ouais.
Punk, rock, ska, tous les sous-genres, c'est ça. Ce Alex Bastide qui faisait du skateboard a réuni deux de ses passions, la musique et le skateboard, dans une boutique qui s'appelait tout simplement Underworld.
Ah, ben oui, OK. Oui.
Et c'était Antique. C'était Antique, tout simplement.
Mais il y en avait un au centre-ville plus tard, non?
Oui, il y en a eu un dans le coin de Sainte-Catherine. Ouais,
qui était un skate shop.
Ouais.
Il y avait, oui, il y avait des shows, je pense,
tu
as raison.
Oui, oui. Là, on tombe dans... Là tu me
ça fait longtemps, bouscules.
Oui, mais là tu avances vite dans le temps. Là. Oui. On ne pourra pas faire un résumé. Mais c'est ça, ce jeune entrepreneur-là, il était tout jeune à l'époque, a décidé de partir sa propre, on va dire, sa propre entreprise de vente de vêtements, de skateboard,
oui.
Des planches, des roulis, des patins, pas des patins à roulettes, mais des planches à roulettes avec les trucks, qu'est-ce qu'on appelait les trucks,
oui.
Les wheels, les roues, la planche, et là, tu montais ton propre board. Puis là, tu en sortais de là, tu étais heureux, content.
Ben ouais.
Et il y avait une place dans la boutique, celle de Antique, sa première boutique qui est ouverte. Il y avait des records. Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai acheté. Dans ce temps-là, j'étais plus CD. Mais je me rappelle avoir vu Bad Brains, Rock for Light, l'album jaune mythique avec le Capitole et le Lightning. L'éclair qui attaque le Capitole, un des très grands albums. Il y a plein d'albums, mais c'était pas juste le néo-punk. Il y avait une grosse section de vieux, on va dire, American Hardcore avec Minor Threat et compagnie. Fait qu'il vendait des disques, il vendait des planches à roulettes. Il organisait aussi des spectacles.
Okay.
Tu m'as devancé. C'était un autre de ses passions. Fait que dans le livre, on apprend son parcours, un parcours punk rock d'entrepreneur. Do it yourself, fais-le toi-même, fonce, essai-erreur.
Ouais.
Il parle de ses bons coups. Il en a fait beaucoup. Il parle de ses moins bons coups. Il en a fait autant, mais il a appris. Il a appris de ses erreurs. Il a grandi. Il a appris sur le tas, comme on dit.
Oui, OK, ouais, mais, parce que dans le fond, lui, il avait pas de formation nécessairement.
Non, mais il a fait quand même des cours, je pense, de jeunes entrepreneuriat.
OK.
Un peu, ouais. il en parle un peu. Et là, on suit son parcours du début à la fin, les bons coups, les événements, l'ouverture d'un autre boutique. Il est allé, lui, il voulait dominer le monde, je dis ça là, en riant, là, entre guillemets, là, c'est pas vrai, là, mais il voulait que son magasin soit. À travers le Canada.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça qu'il est allé une année dans l'Ouest canadien, qui a une culture très West Coast américaine, le surf, toute la culture... tout ça, snowboard, tout ça. Fait qu'il est allé à Vancouver, qui est quand même une autre place au Canada qui est très chill, très relax, et il a ouvert une boutique là-bas. Encore une fois, en s'associant avec des gens. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Et il a continué à faire des concerts, des spectacles, inviter des groupes. Encore là, l'attitude de DIY, de « venez jouer, je vais faire un flyer ». Des fois, il y avait des groupes qui venaient jouer, puis il y a vraiment eu une liste impressionnante. Là. Les Gangrene, Green Day à leur début, des groupes sub qui sont devenus Simple Plan. Mais ouais. En tout cas, tout ça, le logo, regarde, je trouve la page, je te le montre. Là.
C'était le chiffre 27, là, je me souviens de... Il y avait le sticker numéro 27. Underworld 27.
27, ouais. C'est comme des succursales, comme une caserne de pompiers, je pense.
Ah, OK, c'était ça le numéro?
Ouais, ben, il me semble que c'est une affaire comme ça.
Il y avait 27 magasins?
Non, il n'y a pas 27 magasins, mais il me semble...
Je me souviens d'avoir déjà eu un sticker de Underworld 27.
OK.
Mais j'avais acheté un skateboard à la boutique Sainte-Catherine à l'époque.
Ah oui? Il est où, skateboard, là?
Oh, il est caché dans mes affaires.
Quand est-ce que t'en fais? Je me sens
j'en fais plus. Longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait des années.
Puis tes fils sont pas... ils l'ont pas trouvé encore? Ils n'ont pas commencé à vouloir faire des
hollies? Papa n'a pas insisté pour qu'il en fasse. Là,
pour pas qu'il se pète la gueule, ça ne tentait pas de mettre des plasters puis du mercurochrome.
Oui, exactement.
Du petit liquide rouge.
Peroxyde.
Du peroxyde.
Non, mais c'est ça. C'est... Ouais. Il y avait la boutique au centre-ville. Ben, c'est ça. Moi, quand j'étais étudiant à l'université, il y a...
Jadis naguère autrefois.
Il y a presque 20 ans de ça.
Ouais.
Il y avait cette boutique-là sur Sainte-Catherine, au coin de, je crois, Sanguinet.
Oui.
À peu près. Mais je n'y suis jamais allé pour voir un spectacle, par contre.
Ben non. Gas t'as ça, My Big Wheel, il était coquiné avec les Planet Smasher. Fait qu'il y avait la scène locale avec qui il travaillait fort et il y avait la scène, on va dire, plus internationale, les Blink-182. Qui joue dans un sous-sol avec un flyer, avec une espèce de banderole en vinyle, Underworld, qui dit T-shirt, hats, skateboard, hardcore, rap, tout ça. Il était beaucoup dans l'alternative. Il a accroché aussi vite dans le hip-hop, comme tous les kids de l'époque qui ont trippé sur l'énergie du punk hardcore. On l'a retrouvé aussi dans le rap, le hip-hop. Fait qu'il y a eu des grandes personnes. Puis c'est ça, fait que là, il y a un plan d'affaires. Puis il commence son apprentissage de jeune entrepreneuriat. Et moi, ce que j'aime, c'est ça que j'essaie de te montrer, là, j'ai une grosse parenthèse. Il y a eu une vision vite, puis ça, je trouve ça vraiment important pour des groupes ou pour des entreprises, l'espèce de branding, le visuel qui est super intéressant, de différentes manières d'écrire Underworld, un peu comme un chandail de baseball, comme des... C'est Indians de Cleveland ou de quelque chose comme ça. La tête de mort qui revient, les stickers, les t-shirts, les tucs, les casquettes, name it. On voit un de ces plans d'affaires qui est écrit à peu près sur une napkin, qui est comme écrit à la main, à la mitaine, comme on dit, et photocopié. Fait que le livre est super intéressant. Beaucoup de photos de ces boutiques. Sa première boutique, les rénovations qu'il fait, tout ça. Le disquaire, le plancher, il trippait beaucoup ska. Fait que, quand on pense ska, le blanc et noir, le damier du jeu d'échecs, c'est là. Tout était... il s'est entouré de plein de gens solides, mais il y avait déjà une vision assez importante de qu'est-ce qu'il voulait et qu'est-ce qu'il ne voulait pas. Et par la suite, bon, fait que c'est ça, il est allé dans l'Ouest, le show des... Faut que vous lisiez. Beaucoup de belles images d'une époque révolue, quand il est allé dans l'Ouest, les compétitions de skate, name it, les gens qu'il a rencontrés. Et par la suite, comme je disais, le rap avec Mad Child, un des deux de Swollen Members, des shows. Et moi, j'ai un flyer que je regrette toujours qui est ici dans mon studio maison. Charlie Tuna de Jurassic 5, live with full band. Cabaret Underworld. J'ai manqué ça.
Oh,
j'ai
wow.
Le flyer, mais je l'ai manqué. J'aurais adoré. J'adore Jurassic 5. J'adore Ozzo Matley. Et Mr. Charlie est dans ces deux groupes-là. Et là, on suit son parcours, on suit tristement la fermeture, il faut qu'il se réinvente.
Oui, parce que les boutiques Underworld n'existent plus aujourd'hui. Là.
Non.
On n'en trouve plus nulle part.
Fait que c'est ça qui est important du document que j'ai entre les mains. lui, il a une qualité d'entrepreneur, de visionnaire, mais il a une qualité d'avoir gardé toutes les flyers, tout ce qu'il a fait. Des photos, des mémorabilis, flyers, photos, stickers, tout ça est dans le livre. Fait que pour un tripeur comme moi, il a même fait une exposition il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai manqué, de tout ce qu'il y avait. Il a fait une exposition comme si c'était un musée. Il a fait une pop-up galerie, si tu veux.
Ouais.
Puis il a fait ça. Là, il y a une photo d'un show que j'aurais aimé voir avec les Dwarves, le chanteur des Dwarves. Fait qu'il a fait des de queers, name it. Regarde tous les flyers de show de band rock et hip-hop, GBH, des légendes du punk rock, Gutter Demon, Smith & Wesson, The Rap, M.O.P., Onyx, du gros hardcore rap de New York, name it. Fait que t'as tout ça, juste pour le livre, ça vaut vraiment la peine. Ça se lit très bien. C'est comme si t'as une conversation avec. Okay. C'est oral. C'est comme une, on dirait que c'est comme une retranscription orale.
C'est lui-même qui a écrit le livre?
Lui, aussi? Avec une... C'est lui qui l'a écrit, mais il y a quelqu'un qui l'assiste aussi.
Okay.
Mais on sent son... C'est lui qui parle.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'anecdotes ces années-là.
Oui.
Donc là, on est comme on voyage dans les années 90, j'imagine. C'est
autour
dans
de cette ça. Ouais.
Combien de temps a duré cette époque-là?
Hey, là, tu me poses une colle.
Le magasin a fermé dans les années 2000, peut-être?
Oui, peut-être 15 ans. Je ne sais pas. Ça dépend quand est-ce qu'on décide. Que 1990-95, c'est comme la période, on va dire, embryonnaire. Là, il y a eu une autre époque. Mais là, après ça, je vais t'en revenir là-dessus. J'ai mal lu le livre, finalement. Non, mais c'est ça, moi, les dates, c'est pas ce que je retiens. Ce que je retiens, par contre, c'est qu'après ça, il a changé totalement. Là, il est devenu un entrepreneur en série. Il a fait un restaurant que tu dois connaître, Le Gros.
Le Gros Luxe.
Exactement.
OK, c'est lui qui est derrière ça.
C'est lui qui est derrière ça.
Ah, wow, OK.
Avec d'autres collaborateurs, naturellement, mais c'est lui l'instigateur. Il y a plusieurs succursales, si on peut dire. Et une affaire que j'aimais bien gros, que je trouve bien cool, puis il a pris des photos de... Et puis là, il parle du look vintage, puis de ramasser des affaires à gauche, à droite, d'un brocante, chez l'antiquaire. Ça, j'ai bien aimé cette partie-là. Il montre une photo d'un de ses drinks, que c'est comme un Bloody Caesar. Bon appétit tout le monde, avec un mini-burger dessus, des ailes au poulet, des croquettes, de name it. T'as ça dans le drink. Fait que t'as un drink, qui doit coûter, je m'en rappelle pas... Mais avec le drink, tu as la bouffe qui est dessus.
OK.
Ça se boit bien,
j'imagine.
Ça se boit bien, des rondelles d'oignon. C'est le gros luxe total. Et une chose surprenante aussi qu'il s'est toujours efforcé à faire, c'est un végétarien.
Wow.
Fait qu'il a vraiment poussé cet aspect-là, les saveurs, le goût, les drinks aussi, les mixologistes, c'est la mode des personnes qui font des super drinks. Fait qu'il a toujours eu le Gros Luxe, il y en a un Notre-Dame-de-Grâce qui... Fait que pour lui, le Gros Luxe, c'était un bar, un resto, un café. C'est là que ça se passait. Et là, il parle, c'est tout récent le livre, parce que là, au chapitre 8, c'est une pandémie plus tard. 2020-2021.
OK.
Fait que c'est les années passées. Et là, en tant qu'entrepreneur, il raconte la difficulté qu'il a eue de s'adapter et de se réinventer. Et ça finit par une belle conclusion. Punk un jour, punk toujours.
OK.
Fait que je t'invite à aller. Ben super intéressant. Je l'ai dévoré vraiment en trois jours. Il y a beaucoup de photos. Fait que ça se lit très vite, très bien. C'est Philippe Vaillancourt qu'on a eu. Philippe Vaille de Clash Podcast qui l'a eu en entrevue. Je l'ai écouté. Super intéressant. Et lire le livre, c'est un super bon complément et non un compliment. Mais je complimente ce livre-là. Tout simplement, Sortir du cadre par Alex Bastide.
Ouais, merci beaucoup pour un petit voyage dans l'univers du skate punk des années 90-2000 et du restaurant Gros Luxe.
Yes.
Si vous aimez la junk food, bien grâce.
Oui, mais c'est ça.
C'est toujours bonne dans le lendemain de veille.
Oui, le lendemain de brosse, exactement. C'est ça que tu as mangé, toi, pour te remettre.
On continue la musique, Marc-André?
Oui, à l'instant même. We'll be right back.
Morton pour savoir qu'est-ce que la gossip. Un café dub-dub avec trois Timbits, une gossip. Pas de drive-thru, tu manquerais toute la gossip. Je veux savoir la gossip. Les portes rouvrent, gossip. Mettre mes belles halbes, prendre tes drives, gossip. Rain or shine, top shape ou malade, gossip. Gossip. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. T'as-tu vu l'allure? T'as-tu vu l'allure? Well, Saint-Bénit, on a retenu vu. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu? As-tu vu ci? As-tu vu ça? Savais-tu pour ci? Savais-tu pour ça? Gossip! As-tu su pour chaud, t'es rendu au foyer? Gossip! Elle est pas méchante, elle est juste tannante. Gossip. Il a bongé son orignal, il était fou comme la marde. Gossip. Gossip. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. Ah ah ah, ça n'a pas d'allure. J'ai-tu vu l'allure? J'ai-tu vu l'allure? Well, Saint-Bénit, on a retenu vu. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu? As-tu vu ci? As-tu vu ça? Savais-tu pour ci? Savais-tu pour ça?
Oui, il irait mieux qu'un bon Tim Hortons pour apprendre toutes les potins, toutes les gossips du quartier. Marc-André, on vient d'écouter Lisa Leblanc.
Oui, monsieur, tu as gagné 3 Timbits.
3 Timbits, miam, miam, miam. J'espère que c'est les nouveaux Timbits de Justin Bieber.
Oui.
Des Tim Biebs.
Oui, je t'en offre.
Merci.
Moi, j'en mange pas.
Lisa Leblanc avec l'album...
Chiac Disco, son nouvel album qui vient tout juste de sortir, ben, il n'y a pas si longtemps, et ça sonne. J'avais des petites craintes que disco, j'aime le disco, c'est correct, mais ça va-tu être trop? C'est super cool, ça s'écoute super bien. Écoutez l'album de A à Z, pas juste les extraits radio, les vidéoclips que vous allez voir. Écoutez-le du début à la fin.
D'un seul coup.
D'un seul coup. Écoutez-le à quelques reprises et ça va rentrer dans votre petit cerveau. Il y a des invités de marque dedans, dont on me souffle à l'oreille qu'il faut que je me dépêche, Antoine Graton et d'autres membres de la communauté musicale du Nouveau-Brunswick. Fait que, allez écouter ça, est en concert partout au Québec dans les prochains mois. Ça va rocker, ça va être disco, puis on va pouvoir se raconter des petites anecdotes de gossip.
Excellent. Merci beaucoup, Marc-André. On écoute Lisa Leblanc. Restez des nôtres. Il y a plein de bonnes émissions sur les ondes de CKUT 90,3 FM.
Yeah!
Bye-bye!
Bye!
The following is a previously broadcast program.
Hottest artist, Carol G. Strip Love Tour. In concert. Saturday, September 17th at Bell Center. Get tickets now at carolgmusic.com. Carol G. Strip Love Tour.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting food, West Indian food. Check it out.
334
St. Jacques Street. The one and only. Chef X. And the best. Everyone calling up his name, talking about him. All type of food ready right there. Fish, vegetables, oxtail, curry goat, jerk chicken. That same tasting Caribbean food in a Montreal. And then me go when me left Jamaica. Go there right now. The food delicious. Delicious. West Indian Caribbean Cuisine. I will be there. Check it out. Check it out. One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting.